Les podcasts de Bien en Périgord.
Bonjour Elsa Lartigot, vous êtes psychologue du travail au service de prévention santé travail Corrèze Dordogne. Vous êtes confrontée dans votre quotidien à l'épuisement professionnel de salariés et donc c'est cette thématique que nous avons choisie aujourd'hui pour notre podcast. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous en donner une définition ?
Bonjour Christine, oui bien entendu. Alors le burn-out, on pourrait littéralement du coup le traduire par le fait de se consumer, comme une bougie en fait qui petit à petit va se consumer jusqu'à du coup s'éteindre. Donc aujourd'hui le but un petit peu de ce podcast, c'est de permettre à tout un chacun d'identifier eh bien les signes alertants sur eh bien les différentes étapes du burn-out. En termes de définition, si on se base sur la définition de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, donc le burn-out serait considéré comme un phénomène lié au travail, comme un processus d'une certaine manière de dégradation du rapport subjectif au travail. Donc la traduction peut être un petit peu littéralement dure à entendre. Si j'essaye un petit peu de démystifier cela, eh bien ça pourrait être désigné comme le syndrome d'épuisement professionnel, comme une manifestation en fait d'un stress chronique au travail. On entend chronique par le fait qu'il s'installe durablement malheureusement au travail et par un schéma aussi de répétition de situations potentiellement stressantes. Donc il s'agirait à la fois d'un état d'épuisement donc professionnel, physique, émotionnel et mental, résultant effectivement de situations de travail pouvant être particulièrement exigeantes émotionnellement pour le salarié. Il est particulièrement lié à effectivement une accumulation de stress au travail, caractérisée notamment eh bien, par certains sentiments négatifs envers les autres et également envers soi-même. Il est notamment causé effectivement par une utilisation excessive de sa propre énergie, de sa vitalité et de ses ressources, ce qui provoque le plus souvent un sentiment d'échec et d'épuisement. Voilà un petit peu pour une première définition.
Concrètement, dans une structure professionnelle, quels sont les facteurs qui vont favoriser justement cet épuisement et le fait que la personne n'arrive plus à faire face?
Alors moi je dirais que c'est plutôt du coup effectivement un tout, c'est-à-dire qu'il y a une notion on va dire personnelle et une notion également liée à l'environnement de travail. Donc effectivement cela peut résulter d'un effort soutenu déployé par un individu donc pour atteindre un objectif qui est souvent irréalisable, mais il est important aussi de prendre en compte le contexte de travail dans lequel effectivement va s'intégrer le salarié en tant que tel, avec par exemple eh bien, des facteurs qui vont favoriser l'émergence justement du syndrome d'épuisement professionnel. Par exemple, eh bien, des obligations et des pressions externes potentiellement toujours plus grandes. Également une ambiance de travail qui va parfois être difficile et délicate. Également de potentiels dysfonctionnements organisationnels, des changements organisationnels importants. Ou encore un manque de reconnaissance, ça revient également beaucoup lors des entretiens, le manque de reconnaissance par les salariés. Ce que je peux noter aussi, c'est une surcharge de travail avec effectivement une intensité de travail qui du coup change du tout au tout, ce qui génère une perte de repères aussi chez le salarié. Ou encore effectivement une perte de sens, le sentiment effectivement qu'il y a un décalage qui se crée entre les valeurs personnelles et professionnelles du salarié en tant que tel et un potentiel changement de culture au sein de l'entreprise. Donc là va naître également un sentiment de déstabilisation de l'identité professionnelle du salarié, ce qui va générer potentiellement un facteur RPS, un facteur risque psychosocial.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que on peut... Alors, c'est toujours très difficile et on aime bien en France mettre des cases, mais est-ce qu'il y a des profils, est-ce qu'il y a des personnes plus susceptibles de développer ce type de syndrome?
Alors, au regard, moi, des expériences que j'ai pu observer dans le cadre là aussi de mes entretiens, les personnels, moi, que je reçois sont souvent en capacité de se remettre en question. Et ça, c'est très important dans le cadre d'un burn-out, c'est aussi savoir aussi se poser la question. Qu'est-ce qui a fait aussi que j'en arrive là? Donc, de ce que moi je peux observer, il y a certains, on va dire, profils types, pour lesquels, effectivement, il y a un risque, on va dire, plus marqué que pour d'autres profils de développer un burn-out. Par exemple, les gens qui ne mesurent pas leur investissement au travail, ni leur temps passé au travail. Des gens dont la sphère professionnelle, en fait, elle prend vraiment une place prépondérante dans leur vie. Autre exemple, les personnes qui vont vraiment faire un travail de leur mieux sans rechigner vraiment à la tâche, avec un goût particulier à l'effort. Donc ça, c'est des gens qui sont un petit peu durs à la tâche, vous voyez, si j'ose dire, avec une volonté assez accrue de démontrer en fait de quoi il est capable, démontrer ses compétences, vous voyez. Ça, c'est effectivement, ça revient énormément. Également un personnel du coup qui est particulièrement consciencieux, rigoureux au travail, efficace. Et qui a fortement aussi une représentation du travail qui est vraiment singulière. Voilà le profil.
Déjà avec un seuil de tolérance élevé ?
Oui, particulièrement. Et avec une exigence du coup personnelle aussi très, très forte, avec un sentiment aussi d'être de nature particulièrement perfectionniste.
Concrètement, lorsque l'on est confronté à un syndrome d'épuisement professionnel, quels sont les signaux avant-coureurs, les signes précurseurs qui peuvent nous permettre ou permettre à l'entourage, aux proches, aux collègues, de se rendre compte que la personne est en situation d'épuisement professionnel?
Oui, alors le burn-out, il faut savoir qu'il du coup, n'arrive pas inopinément comme ça sans crier gare. Du coup, il y a plusieurs signes effectivement avant-coureurs qui permettent, on va dire, d'identifier le syndrome d'épuisement professionnel. Avec par exemple eh bien, des signes, on va dire, plutôt cliniques, cliniques physiques. Exemple, une fatigue chronique, du coup, due à un sommeil donc, qui n'est plus suffisamment réparateur pour la personne. Également des maux de tête peuvent être du coup aussi signifiés, des troubles digestifs, des tensions musculaires ou encore effectivement des troubles du comportement alimentaire également. Des troubles, on va dire maintenant, plus orientés vers le cognitif, avec par exemple eh bien, un ralentissement du coup des capacités de traitement de l'information, également des modifications de l'attention, avec une diminution de l'attention, une diminution également de la concentration, une diminution également malheureusement de la mémoire. Voilà, parfois des situations où on va dire où on va manquer de mots, vous voyez, on n'arrive plus à remettre aussi une idée. Des situations également de lapsus peuvent être aussi des signes avant-coureurs. Vient maintenant, on va dire, la partie inhérente aux troubles davantage dits comportementaux, avec par exemple eh bien, une irritabilité qui va être de plus en plus exacerbée dans le travail et aussi en dehors, au sein de la sphère familiale. Des excès de colère peuvent être aussi notifiés, un comportement de plus en plus agressif malgré la personne, malgré elle. Également, du coup, on va dire une sensibilité plus accrue face à des frustrations potentielles.
Elle peut retourner cette personne l'agressivité contre elle, ce sont des choses qui peuvent arriver.
Également, oui, effectivement, parce que du coup, la personne est déstabilisée sur tous les plans et notamment sur l'identité personnelle. La personne, du coup, ne se reconnaît plus elle-même. Et de fait, ça peut générer effectivement des excès de colère, d'incompréhension, avec une certaine potentielle agressivité, effectivement. Viennent enfin, des troubles, on va dire, plus orientés vers le connoté psycho-affectif, avec par exemple un sentiment d'échec personnel, un sentiment également d'impuissance de la situation, une très forte incompréhension. Qu'est-ce qui se passe en fait? On se sent démuni par rapport à ce qui nous arrive. Et donc, de fait, une perte de la maîtrise de la situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Parfois également, les gens se sentent seuls, vraiment, isolés, seuls dans ce qu'ils traversent, parce qu'effectivement, c'est un mal qui est invisible, et ils ont du mal à communiquer et à traduire, de fait, ce qu'ils ressentent intérieurement. Le personnel peut aussi avoir le sentiment d'être comme pris au piège, vous voyez, comme enfermé, en fait, doutant de ses propres compétences, ne pensant plus qu'il n'est capable de faire, en fait, son travail, ou même les tâches, les simples tâches, si j'ose dire, du quotidien, voilà, n'ayant plus l'énergie pour faire cela. Et donc, malheureusement, cela peut aller jusqu'à avoir des idées noires et le passage à l'acte, voilà. D'où le fait de vraiment être vigilant sur vraiment l'épuisement professionnel et ne pas le minimiser, vraiment. Que ce soit la personne en tant que telle ou les proches qui observent un changement. Les proches ou bien sûr l'environnement de travail et les personnels du coup encadrant qui effectivement observent chez leurs salariés eh bien, des différences en termes de comportement, des changements, qu'ils essayent également de voir, d'être attentifs à l'état de santé du salarié en tant que tel. Lui-même n'étant plus en mesure de pouvoir le faire en fait, de se protéger lui-même. Voilà un petit peu pour l'ensemble des symptômes qui peuvent être visibles et donc également par les proches, comme je le stipulais. Vraiment cet épuisement émotionnel, donc physique et psychique, en fait c'est vraiment la première dimension et la dimension principale du burn-out. Vraiment le salarié est vidé de ses ressources, il a le sentiment d'être acculé et d'avoir trop accumulé, c'est vraiment ça du coup qui est visible. Et même les nuits, même les week-ends, même les vacances n'arrivent plus en fait à éponger, si j'ose dire, le manque d'énergie, le manque de ressources, puisque dans la plupart du temps en plus, il y a un sentiment de culpabilité qui se rajoute, ou enfin les vacances sont même du coup, elles sont craintes, si j'ose dire, de peur d'accumuler un trop gros retard. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il est très difficile de faire percevoir du coup aux personnes. Également du coup il y a aussi, on met de côté un petit peu les activités de loisirs, vous voyez, il y a des signes comme ça avant-coureurs, le fait de mettre de côté les activités de loisirs, les activités passion si j'ose dire, on croit au début qu'en fait ce sont des simples habitudes qu'on laisse de côté une fois, deux fois, mais en fait le risque c'est, et c'est ce qui se passe en général, c'est que cela s'installe en fait et qu'on omet de notre quotidien en fait nos propres ressources en s'oubliant effectivement au quotidien, aux dépens d'un quotidien de plus en plus, on va dire, néfaste pour sa propre santé, sans qu'on s'en rende compte.
C'est une forme d'auto-punition, de ne plus s'accorder ces moments de loisirs, de passion.
Oui, souvent en fait, de façon inconsciente, c'est le glissement de terrain, il est là, il est très dangereux justement, c'est qu'en fait on ne prend pas conscience des dangers que l'on prend en mettant de côté en fait tous ces moments ressources, ces temps de pause, on oublie en fait l'importance du coup de ces moments-là, et alors qu'ils sont vraiment mais très très importants pour préserver justement notre santé mentale.
Alors en bref, pour que nos auditeurs y voient plus clair, Elsa, si vous deviez synthétiser rapidement les différentes étapes qui se succèdent et qui amènent la personne vers un épuisement, quelles seraient-elles ?
Alors, pour synthétiser, Christine, voilà un petit peu les différentes étapes. Il faut partir du principe aussi, et c'est important de le savoir, que le burn-out peut s'installer progressivement, d'accord ? Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'installe en général. Il s'installe progressivement dans le temps, d'accord ? En quelques mois, voire plusieurs années même. En général, c'est même plusieurs années. Donc la première étape que l'on pourrait du coup nommer est celle, on va dire, de la phase un petit peu d'optimisme. C'est-à-dire que du coup, on arrive au travail, on intègre une nouvelle équipe, on a un travail qui est reconnu, un investissement au travail qui est particulièrement marqué, dont on retire une certaine, des bénéfices, une certaine satisfaction personnelle. Une phase d'une certaine manière que l'on pourrait nommer lune de miel, vous voyez ? Vient ensuite la deuxième étape, une étape on va dire plus centrée sur les sacrifices du coup du salarié en tant que tel par rapport à l'investissement professionnel donné. Au dépend de fait, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, du temps pour soi, du temps pour les loisirs, du temps pour une vie sociale, donc extra-travail, ou du temps pour une vie familiale en fait. Troisième étape, donc là on arrive plus à un sentiment où le salarié va avoir un sentiment d'être de plus en plus isolé, d'être éloigné des autres, un peu plus de solitude, avec notamment des marqueurs de perte de la reconnaissance initialement trouvée, des repères construits initialement au travail. Donc cela va engendrer une certaine mise en doute, vous voyez, de ses propres compétences, de lui-même, d'une certaine manière. Le salarié va alors redoubler d'efforts pour prouver ses compétences et reconquérir d'une certaine manière la reconnaissance trouvée dans le temps, vous voyez. C'est là où d'une certaine manière, c'est un petit peu un piège en fait. Donc ici on peut d'autant plus être dans une phase de déni des signes cliniques alertes tels que par exemple aussi des comportements on va dire addictifs avec une consommation par exemple excessive au tabac, à l'alcool et c'est du coup ces signes cliniques peuvent être présents notamment à cette troisième étape mais sans qu'ils ne soient encore suffisamment entendus par le salarié de fait les occultant pour avancer coûte que coûte en fait. Et il vient en faire malheureusement la quatrième étape d'une certaine manière, celle du coup que l'on pourrait nommer effondrement, écroulement en fait, où là, en fait, le corps dit stop, en fait. En général, c'est le corps qui manifeste vraiment l'arrêt, avec parfois même une impossibilité, eh bien, pour le salarié de faire le trajet jusqu'à son travail, son corps ne lui permettant plus, en fait, de le faire. Donc, d'une certaine manière, après s'être enflammé pour son travail, si on reprend la première étape, eh bien, l'individu s'est consumé. Vous voyez ? Donc là, on est vraiment en phase d'effondrement. Et les personnes relatent souvent le fait de ne rien avoir vu venir, d'une certaine manière. Cela reprend l'idée de déni, hein. C'est très important. Ce qu'il est également important de notifier, c'est qu'il est, primordial, en fait, de rencontrer des professionnels de la santé qui posent, en fait, un diagnostic bien précis sur votre état de santé pour savoir s'il en résulte ou non d'un épuisement professionnel.
Alors, une fois que le diagnostic a été posé par un professionnel de santé, quel va être le parcours de cette personne pour laquelle on a identifié un syndrome d'épuisement professionnel ?
Alors, pendant le burn-out, en fait, il existe plusieurs temps. Je vais commencer par vous les nommer de façon brève et je vais y rentrer plus en détail par la suite. Le premier temps, on va dire le temps du repos. Deuxième temps, le temps de la reconstruction identitaire, de la réflexion également, puis enfin, du coup, de la renaissance du désir de travailler et de la possibilité de retour au travail. Voilà un petit peu les différentes étapes. Donc, selon la sévérité du syndrome, un arrêt maladie de plusieurs mois pourra être vous être prescrit, d'où la notion et l'importance d'apposer un diagnostic par, du coup, un professionnel de la santé. Si on commence, eh bien, par la première phase, la phase du repos, il faut savoir qu'il est indispensable, en fait, pour vous aider à prendre du recul et à reprendre pied. Donc là, vous allez, du coup, certainement être submergé par un état de fatigue très intense. Il faut à tout prix ne pas se sentir d'une certaine manière coupable, justement, d'avoir du sommeil à rattraper. Je pense qu'effectivement, le sommeil que vous avez à rattraper, d'une certaine manière, il est à hauteur de ce que vous avez cumulé jusqu'alors. Voilà un petit peu pour cette première étape, eh bien, du repos. Vient ensuite, on va dire, le temps des ressources, de l'énergie à reprendre. Donc là, si j'avais effectivement un conseil à vous donner, c'est de ne pas aller trop vite en besogne. Dès lors que l'énergie va vous revenir un petit peu, ne l'exploitez pas directement de façon entière. Mais au contraire, allez-y avec parcimonie. Réapprenez à, d'une certaine manière, à écouter votre corps, à respecter la temporalité qui vous sera nécessaire pour reprendre de l'énergie. D'une certaine manière, il ne faut pas jouer le jeu du burn-out, dans le sens où, effectivement, vous avez eu l'habitude d'être toujours speed. Là, en fait, d'une certaine manière, le burn-out vous force à vous arrêter. Écoutez votre corps. Privilégiez davantage, d'une certaine manière, l'endurance au sprint. Vous voyez, si je devais le caractériser ainsi. Vos habitudes d'hier, votre polyvalence, étaient d'autres habitudes. Aujourd'hui, il va vous falloir réancrer de nouvelles habitudes plus en accord avec votre corps et votre esprit. Il y a une notion de deuil à faire, du coup, un petit peu de vos habitudes passées, mais c'est primordial pour pouvoir avancer. Donc c'est une étape un petit peu que je nomme, moi, les montagnes russes, c'est-à-dire que vous commencez à reprendre de l'énergie, vous voyez, et il faut vraiment que vous veilliez à ne pas l'exploiter d'une certaine manière trop vite, parce qu'après, eh bien, de suite, vous allez avoir 2-3 jours qui vont de nouveau être sains. Et donc là, ça va générer en vous de l'incompréhension, de nouveau de la frustration. Donc vraiment, veillez à vous écouter et à ne pas gaspiller cette énergie qui revient. Elle est salutaire, mais il faut savoir l'apprécier, du coup, dans le temps. Et puis, voyez, le bon côté des choses vis-à-vis de ça, c'est que, du coup, quelques semaines, quelques mois précédemment, au préalable, vous n'étiez pas en mesure d'avoir cette énergie. Donc, c'est que, du coup, il y a une évolution quand même qui est favorable et c'est que, petit à petit, eh bien, l'énergie vous revient. Donc, voyez cette manière-là comme le verre à moitié plein. Il faut vraiment veiller à, justement, à accepter cette temporalité. En général, on me dit souvent, ça prend trop de temps. Combien de temps ça prend ? Voilà. Les gens se sentent pressés par le temps. Alors qu'encore une fois, le burn-out vous force d'une certaine manière à prendre ce temps et à vous poser. Donc il faut accepter cette temporalité. Plus vous serez d'une certaine manière dans l'opposition de la situation, de qui vous êtes, d'une certaine manière, plus cela prendra du temps. Il faut bien, du coup, le percevoir. Viendra alors le temps de la réflexion. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je peux ? Du coup, aussi, hein, s'écouter là encore. Et qu'est-ce que, voilà, le temps de la volonté. Écoutez aussi votre volonté pour, du coup, savoir est-ce qu'il est temps ou pas que je me remette en mouvement. Voilà. Et donc après la réflexion viendra effectivement la prise de décision. Ok, bien, au regard des éléments que j'ai traversés, des situations que j'ai traversées, qu'est-ce que je souhaite maintenant pour moi? Du coup, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et amener à la prise de décision sur la situation en cours. Vous voyez, acter les choses pour favoriser eh bien, ce renouveau. Voilà. Voilà un petit peu pour les étapes en bref. Du coup, qui caractérise et eh bien comment s'installe du coup un petit peu le burn-out et comment du coup on le traverse d'une certaine manière d'une étape vers une autre.
Par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué, Elsa, ce qui est très intéressant et sûrement qui va donner des pistes à ceux qui nous écoutent, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner à nos auditeurs pour justement affronter ce quotidien?
Oui, alors déjà des conseils et eh bien pour tenter d'éviter un petit peu l'épuisement professionnel. Avec un premier conseil, du coup, ça va être écouter votre corps, en fait. Votre corps, il vous parle. Essayez de regarder un petit peu ou de sentir un petit peu ses réactions. Réfléchissez à ce que vous ressentez. Écoutez véritablement votre corps, c'est le premier précurseur, du coup. Vraiment un signe d'alerte. Également, n'hésitez pas à vous faire aussi un petit temps de pause en fait et à vous arrêter d'une certaine manière, on va dire mentalement, sur ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train effectivement de vivre ou alors de répéter par rapport à vos expériences passées dans le travail. Il est important et primordial effectivement de savoir se remettre en question pour se réajuster aux besoins et ne pas d'une certaine manière eh bien, répéter ces mêmes schémas. D'une certaine manière, que l'épuisement professionnel soit synonyme avant tout d'expérience, d'apprentissage, plus que d'un sentiment d'échec. Vous voyez, ça c'est très important. Un autre conseil que je pourrais également vous donner, c'est de peut-être réfléchir à la place que vous octroyez au travail dans votre vie, du coup. Quel sens vous y mettez? Et vous interrogez aussi sur le sens que vous donnez un petit peu à la vie en général et à la vie professionnelle, comment elle peut s'intégrer aussi dans le sens que vous donnez à votre vie. Comment le travail s'intègre-t-il, s'imbrique-t-il dans votre vie? Posez-vous la question, que souhaitez-vous pour vous en fait, aujourd'hui et demain? Et comment le travail peut s'intégrer au mieux dans ce questionnement-là, de façon à toujours être aligné? Il faut aussi un autre conseil, veiller à se recentrer sur ce qui vous importe le plus justement, la notion de redéfinir ses priorités, vous voyez, bien poser un cadre, ok, est-ce que là c'est en accord avec mon cadre, quelles sont mes priorités pour éviter justement ces glissements de terrain qui mènent du coup à l'épuisement professionnel. Le cas échéant, du coup, effectivement, ça sera eh bien, de consulter si vous êtes du coup en phase du coup, on va dire, pré-burnout ou post-burnout bien sûr, mais dès lors qu'il de consulter un médecin, consulter un professionnel de la santé, votre médecin traitant, votre médecin du travail au besoin. Et le cas échéant, vous faire accompagner par un spécialiste dans le cadre d'une consultation spécialisée au travers par exemple d'un rendez-vous avec un psychologue du travail, un psychologue clinicien ou un psychiatre. Et surtout, voilà, ce que moi je veux vous signifier aujourd'hui, c'est que n'oubliez pas que vous restez en fait vraiment maître de votre parcours, d'accord ? Que seul vous pouvez être acteur pour vous-même, vraiment ça c'est très important. Moi ce que je peux observer vraiment dans la plupart des cas, c'est un sentiment en fait d'emprisonnement dans une situation. C'est un leurre en fait, c'est pas forcément la réalité et la vérité d'une certaine manière. Redevenez acteur pour vous-même et en fait n'oubliez pas ce champ des possibles. Il est vraiment présent, il ne tient qu'à vous en fait de l'activer ou ne serait-ce que de l'ouvrir. Déjà l'ouvrir sans même passer à l'acte vous permettra en fait de générer comme un bol d'air et ça peut être salutaire déjà pour l'esprit. Pour justement éviter ce sentiment d'emprisonnement qui peut être vraiment dramatique. Voilà, ce champ des possibles peut être pour beaucoup source d'un renouveau, au travers par exemple d'une nouvelle orientation professionnelle ou d'un nouveau positionnement au sein de l'entreprise. Par nouveau positionnement, eh bien, je peux entendre effectivement après la réflexion menée sur soi, un changement, un renouveau de posture, un renouveau de positionnement qui est adopté, donc du coup pour justement eh bien, savoir mieux s'intégrer, si j'ose dire, dans un environnement de travail dans lequel on a pris le recul nécessaire pour pouvoir eh bien, continuer à avancer. Il peut être aussi question d'un réaménagement de poste aussi, pour pouvoir eh bien, réintégrer plus facilement, plus sereinement le travail. Le renouveau sera d'autant plus construit et pérenne s'il fait suite, comme je vous indiquais, à ce temps de reconstruction et de réflexion sur ce qui s'est passé précédemment, sur ce qui s'est joué à la fois intrinsèquement et extrinsèquement, dans le cadre de l'environnement justement du travail. Réfléchir enfin sur les attentes qu'on a au travail, les attentes du coup qu'on lui confère, d'accord ? Est-ce qu'on va avoir les mêmes attentes au travail avant un burn-out, après un burn-out, d'accord ? Donc ça, ce sera très important aussi de le signifier, quels sont et quel est le cadre, quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on attend du travail ? Plus on aura d'attentes, plus on aura de risques de tomber dans la désillusion et les frustrations. Donc ça, c'est très important. Voilà un petit peu sur les conseils que je peux vous donner.
À présent, nous y voyons plus clair sur toutes les étapes et tout ce qui peut mener à un syndrome d'épuisement professionnel. Elsa, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui actuellement nous écoutent, qui sont elles-mêmes dans cette situation, ou peut-être des proches qui vont écouter ce podcast et qui justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Alors moi, ce que j'aurais envie de leur dire, donc à tous ceux qui sont en situation aujourd'hui de burn-out, voilà ce que j'ai envie de leur dire, c'est retrouver votre lumière, redevenez maître de votre chemin. Un renouveau vraiment est possible. Faites-vous accompagner par des professionnels si vous le pouvez et surtout acceptez ce temps de pause d'une certaine manière qui vous semblera toujours trop long, je sais, mais qui est véritablement eh bien, nécessaire pour réfléchir sur ce qui s'est joué. Et quelle blessure, quelle posture cela a-t-il activé en vous ? Et comment demain vous pourrez mieux vous repositionner si jamais du coup demain le glissement est de nouveau là ? Aussi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est plus vous serez dans le jugement vis-à-vis de vous-même, plus vous serez dans le jugement de ce temps, dans le sentiment un petit peu de culpabilité, de prendre ce temps, de honte de la situation, en d'autres termes, plus vous serez dans la confrontation vis-à-vis de vous-même, plus cela prendra du temps. Il y a un dicton comme ça, moi, que j'affectionne particulièrement, c'est « il n'y a pas plus grande trahison que de se trahir soi-même ». Donc ça, du coup, ça laisse à réfléchir, je trouve. Et dès lors que vous sentirez prêt, eh bien, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre ? Est-ce à la fois sur mon environnement ? Est-ce à la fois sur moi-même ? Qu'est-ce que je peux en retirer ? Donc je comprends qu'il y a du temps à faire et à traverser avant d'en arriver là, mais dès lors que vous en serez là, tentez un petit peu d'avoir cette introspection. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul dans cette situation, d'accord ? Beaucoup de situations peuvent être ou sont actuellement ou seront demain en situation du coup de d'épuisement professionnel. Ne vous sentez pas seul, ne vous sentez pas coupable ou faible, entre guillemets, ce sont des mots moi qui me reviennent. Ce qui vous arrive peut arriver à beaucoup, beaucoup de personnes, vraiment. Donc, vraiment, et le fait aussi de ne pas se sentir indestructible est important, vous voyez ? Que ce soit tant pour soi, autant dans le jugement aussi, du coup. Ne jugez pas les autres en situation d'épuisement professionnel, cela peut vraiment toucher tout le monde, sans même, encore une fois, qu'on le voit venir. Aussi, il est de bon ton, de mon point de vue, d'oublier les représentations, qui peuvent être un poids supplémentaire. Les représentations sur l'arrêt, du coup, par exemple. Avec le poids de la société qui, du coup, s'ajoute en plus de la culpabilité personnelle. Donc, du coup, veillez aussi à, si vous le pouvez, tenter un petit peu de faire abstraction et à, encore une fois, éviter tout jugement intérieur et extérieur d'une certaine manière. Soyez d'une certaine manière aussi plus indulgent vis-à-vis de vous-même, moins dans le jugement vis-à-vis de soi. C'est très important aussi parce que vous vous rajoutez sinon encore, d'une certaine manière, du poids supplémentaire. Encore une fois, j'insiste, mais un renouveau global est possible. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne le voyez peut-être pas, mais la porte est là, elle est là. Et du coup, dès lors que vous vous sentirez prêt, vous pourrez l'ouvrir, vraiment. Il n'en tient qu'à vous de l'ouvrir. Ne vous y fermez pas et n'ayez pas peur de cette transition, de cette reconstruction globale. Elle vous amène d'une certaine manière eh bien, à réfléchir sur votre identité professionnelle, mais aussi personnelle. Et sur ce qui vous est ou reste est essentiel dans votre quotidien. Mais pour y accéder, encore une fois, le chemin peut vous paraître long, mais il est nécessaire de l'accepter. Viendra alors le temps où, moi, ce que je peux vous indiquer, c'est que vous percevrez le burn-out comme une expérience. Et je conclurai d'une certaine manière là-dessus, sur comme un symbole un petit peu de métamorphose. Et pas n'importe laquelle, hein, puisqu'il s'agira de la vôtre métamorphose. Puisque dès lors que les personnes, en fait, ont fait ce chemin de réflexion, de recadrage, dès lors qu'elles vont mieux, parce que oui, les personnes arrivent à aller mieux, n'en doutez pas, eh bien, pour les témoignages que j'en ai eus, les gens n'investissent plus leur vie de la même manière. Elles n'investissent plus le travail de manière identique. Le changement étant vraiment global et profond. La personne, d'une certaine manière, elle se reconnecte davantage à ce qui fait sens pour elle, aux priorités qu'elle s'est redéfinies. N'ayez pas peur de votre nouveau vous. Il est plus en accord, d'une certaine manière, avec qui vous êtes vraiment de façon profonde. Voilà, donc merci à tous pour votre attention aujourd'hui. En espérant que cette information sur l'épuisement professionnel vous amène à davantage de connaissances, de prise de conscience sur ce sujet, des connaissances pour soi ou bien sûr à transmettre à votre entourage et à son entourage au besoin. À cette occasion, voilà, salariés en difficulté, proches, entourage de salariés en difficulté ou encore bien personnel encadrant, manager, n'hésitez pas à contacter au besoin et bien le service de prévention santé au travail de votre secteur afin de rencontrer bien les professionnels ressources. Avec par exemple eh bien, le médecin du travail qui réorientera au besoin vers le psychologue du travail. Merci à tous.
Merci à vous Elsa et à très bientôt pour un nouveau podcast.